Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Qui aujourd'hui, par exemple, un premier roman et un jeu vidéo. Ce sera un deuxième heure. Vous trouverez aussi Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait pre-frame de Lisa Marie Marquez, Marc-Antoine Lebray et ses voix en toute fin d'émission. Et pour démarrer, évidemment, le journal des médias de Louise Bernard. Notre info média avec ce chiffre stupéfiant. 750 journaux en France sont dirigés par des jeunes de moins de 25 ans. Et oui, à l'heure de TikTok, certains croient encore au papier. Pour en parler, deux jeunes justement. L'un est étudiant et rédacteur dans le premier journal étudiant parisien. L'autre est patronne de presse à seulement 19 ans. Et puis nos invités, Nathalie Lévy, ex-figure de BFM TV, qui reprend une émission mythique de Canal+, en aparté, incarné par Pascal Clark dans les années 2000. C'est la seule émission dont on ne voit jamais l'animatrice. Enfin, le comédien Laurent Lafitte pour son premier film, L'Origine du Monde, avec lui-même, on le voit, également Karine Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent. L'Origine du Monde comme le tableau de Courbet qui représente un sexe de femme en gros plan. Et ce n'est pas un hasard. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Comment vous dites ? Pre-fame ?
Pre-fame, avant la fame, avant la célébrité. Ouais, c'est mon accent inutile d'ironiser. Au sommaire de votre journal des médias,
moi,
Louise.
J'aime beaucoup. Au sommaire des nouvelles du projet de fusion TF1-M6, un nouveau cauchemar pour Philippe Etchebest. Cauchemar en cuisine, évidemment. Instagram néfaste pour les adolescents. Et puis une série arrêtée qui aura finalement une suite.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
C'est 1, 2, 3. Hein. TF1 en tête avec Koh-Lanta la légende, qui était de retour après 15 jours d'absence à cause du foot. 4 300 000 téléspectateurs, c'est 1 million de moins qu'il y a 15 jours. Grosse chute pour Koh-Lanta, 21,8% de part d'audience. Il faut dire qu'il y avait de la concurrence hier soir à la télé. Il y avait le concert de Johnny Hallyday, Que je t'aime, concert hommage évidemment. 3 280 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience.
C'était en direct, hein ?
Et bien
en direct
sûr,
de Bercy.
De Bercy. Tout à fait. Et puis France 3 avec Crime Parfait, sa série policière qui souvent permet à France 3 d'être leader. Là, il était donc troisième avec le premier épisode qui a attiré 3 870 000 téléspectateurs, 16,8% de part d'audience.
Culture Média.
Premier titre de votre journal, Louise, TF1 et M6 commencent à sonder d'autres groupes audiovisuels pour la vente de certaines de leurs chaînes.
Oui, parce que pour fusionner, les deux groupes ne devront posséder que 7 chaînes. Or, ensemble, ils en comptent actuellement 10. Ils ont donc commencé à chercher de potentiels candidats au rachat de leurs chaînes de manière très informelle. Pour l'instant, c'est Le Monde et Les Échos qui révèlent ces informations. 4 chaînes seraient concernées, Gulli et Sister pour M6. Et pour TF1, ce serait TFX et TF1 Série Film. Et si besoin, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, pourrait aussi décider de rendre la fréquence de TNT de Paris Première. Alors, Le Monde avance plusieurs noms de personnes ou de groupes approchés. Patrick Drahi et son groupe Altice, Media One et Alain Veil. Le verdict de l'autorité de la concurrence, lui, est attendu fin 2022.
On quitte les coulisses de M6 pour aller du côté de ses programmes, quoi qu'il s'agisse de coulisses.
La chaîne
propose ce soir un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine.
C'est cette émission où le chef Philippe Etchebest débarque dans un restaurant en grande difficulté financière pour venir en aide aux propriétaires. Mais avant de prodiguer ses précieux conseils pour redresser l'établissement, il n'hésite pas à les secouer un petit peu.
Pourquoi on m'a dit que tout était frais là ? C'est quoi ça ? Franchement, ça pue ça. Ça pue. Hein. Donc ça fait un moment que c'est comme ça. C'est ni fait ni à faire. Moi, vos 15 ans d'expérience... Mais je sais pas ce que vous avez fait pendant 15 ans. Hein. J'ai mangé là-dedans. Si j'étais venu avant en cuisine, eh ben j'aurais pas bouffé.
Extrait de l'épisode de ce soir à Notre-Dame-de-Vaux en Isère, dans le restaurant de Béatrice et Patrice, qui est donc au bord de la fermeture. Alors ça peut paraître étonnant, mais Philippe Etchebest m'a confié que beaucoup de restaurateurs faisaient eux-mêmes appel à l'émission pour obtenir de l'aide, mais sans se rendre compte à quel point c'était dur.
Il a regardé Cauchemar en cuisine à la télévision dans son fauteuil. En rire parfois, ou en pleurer, ça dépend. Et après, il y a le vivre. Vous voyez, j'arrive d'un tournage là, de Cauchemar, et la femme du mari qui est en cuisine, elle me dit « Mais c'est incroyable. Ah, » Je me dis « Je suis épuisé, là, c'est dur, vraiment c'est dur. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ?» Mais je dis « Vous attendiez à quoi ?» Ben, elle me dit « Je m'attendais à ce que vous nous donniez des conseils, des choses comme ça. » Ben oui, mais ça se mérite. Conseil. Il y a quand même un gros nettoyage à faire avant. Parce que je lui dis que vous avez vécu cette expérience Cauchemar en cuisine et vous avez vu ce que c'est. C'est pas rien.
Et il faut savoir qu'une fois les caméras coupées, M6 continue d'accompagner les restaurateurs avec les services d'un expert d'entreprise qui va les suivre pendant 6 mois pour les aider sur la logistique, la comptabilité notamment, de quoi vraiment sortir la tête de l'eau au-delà des quelques jours de tournage. Et après, les scènes de début de tournage justement paraissent bien loin.
15 ans d'expérience, pour manger ce que j'ai mangé, ça ne fait pas quoi. Franchement, je me suis pas régalé.
Cauchemar en cuisine, ce soir à 21h05 sur M6.
Franchement, je me suis régalé à ces infos. Réseaux sociaux, Instagram néfaste pour le bien-être de certains adolescents.
C'est ce que révèle une étude interne de Facebook, à qui appartient Instagram. Étude interne dévoilée par la presse américaine, par le Wall Street Journal. Un adolescent sur 5 affirme qu'Instagram nuit à son estime de soi et les plus concernés seraient les jeunes femmes, notamment les adolescentes britanniques qui ont été sondées. Près d'un quart, 23%, affirme que l'application les fait se sentir un peu plus mal et 2% vraiment plus mal. Comment l'expliquer ? Eh bien, l'application Instagram est particulièrement centrée sur les images de corps et de vie parfaites, idéalisées, plus que d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat où il est plus question d'humour, notamment avec des filtres parfois ridicules, des oreilles de chat ou autre. Officiellement, Instagram dit travailler sur ce problème et chercher des solutions pour aider à réduire cette obsession des adolescents pour les corps qui paraissent parfaits. Mais en interne, ce serait une autre histoire. Toujours d'après le Wall Street Journal, les chercheurs de Facebook auraient proposé à la direction une solution, moins mettre en avant les comptes de stars, de mode ou de beauté, pour privilégier plutôt les photos d'amis. Suggestion non retenue, et un responsable de la plateforme aurait même répondu « Les gens utilisent Instagram parce que c'est une compétition, c'est ça qui est amusant ».
Ça fait pas rire tout le monde donc. On termine le journal avec une actualité série. Luther va avoir le droit à une suite.
Une suite, mais sous forme de film, un film pour Netflix. La série s'était arrêtée en 2019 après 5 saisons. Mais c'est assez logique qu'elle ait une suite parce que ça avait été un énorme succès pour la BBC et sur Netflix qui le diffusait. Logique aussi parce que l'acteur rêvait d'une suite. L'acteur, c'est Idris Elba. Il reprendra donc son rôle de policier torturé, flirtant sans cesse avec les limites. Rôle qui lui avait valu plusieurs récompenses prestigieuses, dont un Golden Globe. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le créateur Neil Cross est chargé d'écrire le film et la BBC de le produire. Le tournage doit commencer en novembre.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour avec ce chiffre stupéfiant. 750 journaux en France sont dirigés par des jeunes de moins de 25 ans. Oui, à l'heure de TikTok, certains croient encore au papier. Pour en parler, deux jeunes, l'un étudiant et rédacteur dans le premier journal étudiant parisien, l'autre patronne de presse à seulement 19 ans. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Si vous ne croyez plus à la presse papier, eux le feront pour vous. Alors que les grands titres de presse tentent de survivre face et avec le numérique, certains jeunes croient encore à la force du papier. Juste un chiffre, on dénombre plus de 750 journaux tenus par des moins de 25 ans en France. Certains sont étudiants, d'autres de jeunes chefs d'entreprise et leur force à ces jeunes utiliser leur passion et en faire un territoire d'expression. Actualité, histoire, culture, sexualité, tous les sujets y passent. Pourquoi croire encore à la presse papier ? Ces jeunes sont-ils l'avenir de cette presse justement ? Et surtout, comment ça fonctionne et comment ça rapporte ? Élément de réponse avec Jenna Boulmedeis. Je prononce bien votre nom ?
Boulmedeis,
bonjour.
Bonjour.
Vous avez 19 ans, vous êtes blogueuse littéraire depuis plusieurs années et vous avez arrêté vos études pour lancer la revue Joli Môme. Joli, J-O-L-Y, 300 pages, dos carré, dont le premier numéro pèse 1 kg ou presque et sort aujourd'hui. Face à vous, avec nous, Albéric Delagarde, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris et à la Sorbonne et vous travaillez pour le premier journal étudiant parisien que je montre ici, un autre format. Il s'appelle La Gazelle, c'est son 37e numéro que j'ai en main, la couverture, c'est Les Pulsions. Jenna Boulmedeis, première question, vous avez arrêté vos études pour lancer une revue papier de 300 pages à 19 ans, vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord, qu'est-ce qu'on trouve dans Joli Môme ?
Dans Joli Monde, on trouve énormément d'articles. Initialement, on était sur Internet et on s'est dit que faire du papier, ce serait cool. Donc, on a un peu repris tout ce qu'on faisait avant en y ajoutant de la littérature. Donc, on peut y trouver de la culture, de la société, de la politique, de l'écologie et des poèmes, des nouvelles, de la BD. On a essayé de faire ce numéro. Évidemment, il est gros, vous l'avez dit. Il pèse 1,2 kg.
Ouais.
Et justement, pour le remplir, on avait envie que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, mettre le plus de choses possible dedans. C'était un peu notre ambition.
Avec une grande pudeur, vous avez éludé les 5 sujets sexos. Il y a aussi des sujets sport. C'est des sujets qu'on trouve dans la presse magazine habituellement. Qu'est-ce que vous faites, ou plus, de quelle manière traitez-vous ces sujets différemment des autres ?
Eh bien, nous, on a un regard qui, je pense et j'espère, est un petit peu différent. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à travailler avec Jolie Môme, ce qu'on s'est dit, c'est on n'a pas du tout envie de regarder la société comme tout le monde la regarde, on a envie de la regarder avec les yeux d'un enfant. Comment est-ce qu'un enfant voit le monde ? Avec énormément d'insouciance, avec énormément de pudeur, ouais. Et malgré tout, c'est le regard d'un enfant qui est le plus sûr et qui est le plus safe,
oui.
Et qui est le plus doux. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment apporter de la douceur.
Je suis d'accord avec vous, mais quand on prend le point de vue d'un enfant, je ne m'attendais pas à cette réponse du tout. Un sujet sur la pollution numérique, une idée pour les abeilles, l'espace, la pêche aux dauphins, tout va bien. Mais quand il y a un reportage nymphomanie, mythe ou réalité, avec des yeux d'enfant, c'est un peu délicat.
Évidemment, mais malgré tout, ça existe. Et un enfant peut en être témoin. Donc il faut un jour réussir à prendre ce parti pris et se dire, bah oui, en fait, les enfants peuvent tout voir et les enfants peuvent tout percevoir. Et c'est ce qu'on a voulu...
Je viens de comprendre dans ma question l'âge que j'avais, puisque quand moi j'avais 19 ans, il était impossible pour un enfant de voir de la pornographie et les sujets comme la nymphomanie nous échappaient complètement. Et ça aussi, c'est un signe de l'époque. Albéric de Lagarde, vous travaillez pour le premier journal étudiant parisien, 37 numéros. La Gazelle, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? En même temps, je dis ça pour nos auditeurs, vous nous regardez sur europe1.fr et je montre les magazines à l'antenne. Qu'est-ce qu'on trouve dans La Gazelle ?
Alors, dans La Gazelle, donc, on trouve des articles répartis en 5 rubriques, et bientôt 6, donc une rubrique culture, une rubrique société, une rubrique politique, une rubrique fiction et une rubrique diplomatie. Et là, bientôt, on va ouvrir une rubrique science pour l'année prochaine. Et donc, chaque numéro s'organise autour d'un thème. Donc là, par exemple, ce que vous avez dans les mains, c'est Pulsion. Le prochain numéro, c'est Intimité. Et donc, chaque rubrique va, selon son angle, choisir des articles des rédacteurs qui vont travailler différents aspects du thème. Donc là, Pulsion, c'est assez large. Et en fonction de ce qu'on est en diplomatie ou en culture ou en politique, on va essayer d'aborder le terme de manière différente.
Pulsion, oui, c'est vrai que c'est à prendre au sens très très large, puisqu'il y a un sujet, j'essaie de traduire, sur les religieux extrémistes juifs en Israël, avec une carte du pays. Il faut être bon en anglais, parce qu'il y a une double page, c'est un peu le format du Monde Diplo, mais tout est en anglais.
Oui.
Donc on ne s'adresse pas à la France d'en bas.
Non, on essaie de s'adresser à absolument tout le monde, en fait.
Ah bah, tout le monde qui parle anglais, déjà, ça limite.
Mais il y a aussi des articles en français, des
ça
articles
ne m'avait
en italien.
Pas échappé, je veux dire par là qu'il faut supposer qu'on parle anglais.
Pour lire l'article en anglais, oui, effectivement.
Voilà. Pourquoi ce choix, justement, de ne pas le traduire ?
Pourquoi ce choix de ne pas le traduire ? Parce que ça nous permet aussi d'essayer de le vendre ailleurs dans le pays. Par exemple, dans ce numéro, il y a des articles en italien et on a pu envoyer plusieurs numéros en Italie, ce qui permet de se faire lire ailleurs qu'à Paris.
Le journal, on en est au numéro 37, le journal a commencé il y a 6 ans, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Il y a 6 ans, vous étiez en quelle classe ?
Moi, j'étais en seconde.
Donc, ce sont des rédacteurs qui tournent, comment ça se passe ? Comment est composée la rédaction ?
Alors, donc, la rédaction, elle change tous les ans, il y a un nouveau directeur ou une nouvelle directrice. Cette année, c'est une directrice. Et après, il y a 2 rédacteurs en chef et 1 chef ou 2 chefs par rubrique, en fonction du travail qui est demandé dans la rubrique. Et donc, la direction tourne tous les ans, et puis après, les rédacteurs peuvent rester plus longtemps, les directeur de rubrique aussi, etc. On a aussi un secrétaire de rédaction, un correcteur et une maquettiste.
Il coûte combien le journal ?
2 euros.
On va parler du modèle économique ensuite. Jolie Môme, il coûte combien ?
25.
25 euros, vous êtes lancée là-dedans. Vous êtes toute seule, combien êtes-vous pour faire ce journal ? Et quel va être le rythme de publication ? Là, je vois que j'ai le numéro de septembre 2021, mais ça ne présage pas de la régularité.
Exactement. Alors, jusqu'ici, notre ambition, c'est d'en faire un trimestriel. Le magazine, on l'a préparé à beaucoup. Dans Jolie Môme, on est 7. On avait 2 stagiaires qui nous ont suivis pour le magazine. Et à côté de ça, on a un maquettiste qui n'est pas dans Jolie Môme, mais qu'on a employé pour. Une illustratrice qui nous a fait la couverture, Alix Garin, qui est illustratrice de BD au Lombard. Et on a aussi des auteurs externes, notamment tous les écrivains qui ont écrit pour le magazine, ne sont pas du tout...
Il n'y a pas que des étudiants dans Jolie Môme, il n'y a pas que des jeunes.
Alors, il n'y a que des jeunes dans l'équipe,
oui,
dans les 7.
Ce que je voulais dire, mais dans les pages de, pardonnez-moi.
Dans les pages de Jolie Môme, non, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des écrivains qui ont déjà bien vécu. Et il y a aussi des journalistes qui ont écrit pour nous, comme Renaud Besbourdier, qui écrit pour Cinématrack.
Alors, je l'ai dit, vous avez 19 ans. Pourquoi avoir arrêté vos études pour lancer une revue ?
Alors, j'ai arrêté mes études de journalisme.
D'accord.
Mais je pars en cinéma.
D'accord.
Et justement, j'ai voulu arrêter mes études de journalisme parce que quand on a arrêté le, on n'a pas arrêté le web, mais quand on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et faire du papier, il y avait vraiment cette chose de j'ai besoin de renouveau. Et avec Jolie Môme, mes études de journalisme, j'ai eu l'impression de les vivre un peu en accéléré. Mmh. Parce que tous les jours, on apprenait des nouvelles choses sur le métier. Et tous les jours, on se disait, ah, mais en fait, ça, on n'a pas appris à l'école. Et comment il faut faire? Et donc, à ce moment-là, vite, on travaille, on cherche. Internet est là, les livres sont là. Et donc, en fait, le métier, il s'apprend aussi sur le tas. Et c'était un des cofondateurs de LinkedIn qui disait que quand t'es entrepreneur, il faut en fait c'est sauter d'une falaise et construire l'avion au moment de la descente.
Ouais.
Et ben je trouve ça très très juste. Et en fait, à partir du moment où on crée un magazine comme Jolie Môme, on devient entrepreneur, on devient journaliste.
Quand on saute de la falaise avec l'avion, on peut tomber sur le banquier. On va justement parler du modèle économique de ces magazines. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Jenna Boulmedaïs, vous avez quel âge ?
J'ai 19 ans.
En compagnie d'Albéric de Lagarde, vous avez quel âge ?
22 ans.
Albéric de Lagarde écrit dans La Gazelle, Jenna vient de lancer Jolie Môme, un futur trimestriel. C'est le premier numéro qui sort aujourd'hui, ça pèse 1,2 kg. C'est quelque chose, c'est un dos carré, il y a près de 300 pages. Le modèle économique, comment est-ce que ça peut être rentable ?
Alors, c'est très...
Il est vendu à 25 ans, c'est quoi le... À 25 ans, à 25 euros, c'est quoi votre business plan, pour employer un mot que je n'aime pas ?
Eh bien, là, il est à 25 euros, mais c'est le premier. Les prochains seront à 15 euros. Le premier, il est de 260 pages exactement, mais il sera à 90 et 100 pour les prochains. Et tout simplement, de la pub. On a refusé de travailler à perte. On voulait avoir tous les sous nécessaires, c'est-à-dire une dizaine de milliers d'euros pour pouvoir produire ce magazine et payer toutes les personnes qui ont travaillé pour. On a réussi pour le premier. Mmh. Maintenant, il va falloir qu'on rame et qu'on essaye de trouver des fonds pour les prochains. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie parce qu'une fois que ce magazine est sorti, c'est-à-dire aujourd'hui, mais une fois qu'on l'a reçu et qu'on a commencé à en parler à droite et à gauche, on a déjà reçu des très bons retours de plusieurs entreprises. Donc ça ne devrait pas trop être compliqué. On croise les doigts.
Redites le chiffre, vous êtes combien dans la rédaction ?
On est 7.
Et chacun est payé ?
Chacun est payé pour ses articles, oui.
Bien sûr. Non, mais il y a plein de magazines qui sont lancés de manière totalement bénévole. Et qui ensuite ont fonctionné. Mais là,
On a travaillé un an et quelques sans gagner d'argent. Et là, on gagne de l'argent, donc ça entre dans les comptes de Jolie Môme et on en profite.
Albéric de Lagarde, ce ne sont que des étudiants qui écrivent dans La Gazelle. Et question subsidiaire, est-ce qu'ils sont payés également eux aussi ?
Alors non. Non, parce que nous...
Non, à quelle question ? J'ai fait une erreur, j'ai posé deux questions.
Oui. Alors oui, oui puis non. Il n'y a que des étudiants qui écrivent, mais non, ils ne sont pas payés parce qu'on est une association étudiante. Mm-hmm. Et donc, on n'a pas d'objectif de rentabilité. Donc, on ne paye pas, c'est un travail bénévole, associatif.
C'est quoi le modèle économique de La Gazelle, puisque, comme vous l'avez dit, le numéro est vendu 2 euros.
Alors oui, 2 euros, parce qu'il faut que ça soit accessible pour des étudiants.
Non, il pourrait être donné, par exemple.
Alors oui, mais ça permet de couvrir une partie des frais, et l'autre partie est principalement couverte par les subventions. Les subventions des différentes universités, puisque comme on est rattaché à plusieurs facs à Paris, ça nous permet d'être éligible à plusieurs subventions qui nous permettent de mettre chaque numéro en marche.
Avec quelle université êtes-vous affilié ? À quelle université êtes-vous affilié ?
Alors, historiquement, c'est Sciences Po, Paris et la Sorbonne. Mmh. Ça a été d'abord créé par des étudiants qui étaient en double diplôme dans ces deux facs-là. Et après, ça s'est un peu étendu. Aujourd'hui, on a Sorbonne Nouvelle, il me semble. On a le Crous. Donc, vous voyez, il y a plusieurs universités partenaires.
Et où est-ce qu'on le trouve, le magazine, le journal ? On le trouve dans les universités, dans les facs, à Sciences Po, ou on le trouve chez les marchands de journaux également ?
Alors, on le trouve pas chez les marchands de journaux, on peut le trouver donc dans les facs, on fait du démarchage dans les facs, à nos événements, parce qu'on organise aussi des séminaires, des conférences, des cafés littéraires, et des soirées de lancement. On peut aussi le commander sur Internet, il suffit de nous contacter, et on l'envoie par la poste avec un petit frais en plus pour le timbre. Et enfin, chaque rédacteur doit lui aussi vendre un peu de son côté autour de lui.
Ah oui, vous avez combien de rédacteurs ?
Alors les rédacteurs, ça dépend un peu des articles.
Non, c'est pour voir si vous avez beaucoup de représentants de commerce en fait, c'était à ça que je pensais. Si vous êtes 5 ou si vous êtes 100, c'est pas la même histoire.
Ah non, on va pas jusqu'à 100 pour chaque numéro, on doit compter entre 15 et 20 rédacteurs, je dirais. Et chacun essaye de vendre 5-6 numéros autour de lui.
Voilà, et donc ils sont en train de nous écouter, donc il faut que j'arrive à mes 5 ou 6 là devant moi. C'est quoi la régularité ? C'est mensuel ?
Non, c'est 5 numéros par année universitaire, donc ça fait un équivalent de bimensuel.
Jenna Boulmedaïs, vous avez fait le choix de sortir Jolie Môme en librairie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas en kiosque ?
Alors pourquoi pas en kiosque ? Tout simplement parce que c'est compliqué d'être diffusé en kiosque, c'est que ça coûte beaucoup d'argent.
Il faut payer pour être diffusé ?
Oui, exactement. Et nous, on a préféré aller vers justement ce qu'on valorise, c'est-à-dire les librairies indépendantes, et leur demander. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a trois points de vente à Paris. Il y a la librairie L'Instant dans le 15e, la librairie L'Impromptu dans le 11, et sinon, c'est la boutique Zoé Ferdinand, qui est une boutique de vêtements littéraires, qui nous a pris des magazines également. Et en fait, on se dit que si on arrive comme ça à démarcher des librairies, bah, ce sera tout aussi rentable, étant donné que Joli Môme, malgré tout, c'est un gros bouquin. Et en kiosque, est-ce que des gens en kiosque achètent vraiment un magazine de 25 euros ? Je ne suis pas convaincue de ça. Ouais. Alors que dans les librairies, les gens, ils ont de quoi.
Je ne vais pas vous faire une critique, je vais vous faire un compliment. Vous êtes pleine d'espoir, parce que vendre un magazine à 25 euros dans seulement 3 points de vente dont vous connaissez les noms, pour moi, c'est inédit.
Alors oui, mais on le vend aussi sur notre site internet, et ça marche. On voit qu'il y a des ventes. On a commencé en Ulule, en pré-vente, quand on a lancé le magazine. En fait, oui, je suis très optimiste, ouais. Je le sais.
Il y a le projet, évidemment, de vous étendre dans Paris, trouver des librairies, et aussi, j'imagine, dans toute la France.
Exactement, exactement. Et même plus loin, on aimerait bien toucher la Belgique, toucher le Canada. On croise les doigts.
25 euros, vous avez choisi ce prix en fonction du prix du papier, des choses comme ça. Combien coûte un magazine comme ceci à faire ?
À faire
Techniquement, rien que les frais d'impression.
Rien que les frais d'impression, bah, ça dépend à combien on veut tirer. Nous, on a dépensé plus de 7-8 000 euros. Mm-hmm. Mais après, on a un gros bouquin et on a du gros papier. Donc, je pense que ça joue. Ouais. On a du 115 et 350 grammes.
Il faut expliquer ce que c'est. 350, c'est... Alors, la couve. 315 grammes, c'est...
Voilà. 350, c'est la couve. 115 grammes, c'est le papier à l'intérieur. Mm-hmm. Et normalement, les magazines qu'on trouve en kiosque, justement, la couve ne dépasse pas 300 et l'intérieur ne dépasse pas 90. Mais on avait envie de vraiment investir là-dedans.
Albéric Delagarde, j'ai oublié de vous demander le tirage de la Gazelle.
Alors, le tirage de la Gazelle, c'est environ 300 exemplaires. Donc c'est un tirage assez, assez réduit parce qu'on n'a pas des moyens de diffusion énormes, 300 exemplaires, et du coup, ça ne coûte pas extrêmement cher. Ça varie un peu avec les prix du papier, mais on table sur environ 500 euros de frais d'impression.
Et est-ce que les rédacteurs de la Gazelle ont tous tendance, envie, propension à devenir journalistes ?
Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. C'est tous des étudiants qui aiment bien écrire, enfin qui ont des choses à dire, on va dire. Et donc, il y en a qui veulent faire du journalisme, et puis il y en a qui veulent être universitaires, et d'autres qui veulent faire à peu près tout et n'importe quoi, mais qui sont inspirés par un sujet et qui ont envie d'écrire quelque chose dessus.
Et vous, Jenna Boulmedaïs, vous souhaitez devenir journaliste, patronne de presse, ou rien de tout ça, ou est-ce que c'est une expérience de plus dans votre cursus, puisque vous faites une fac de cinéma, m'avez-vous dit ?
Oui, non, je vais faire une fac de cinéma pour pouvoir faire du reportage et du documentaire. Donc, malgré tout, le journalisme, j'ai pas du tout envie de le quitter. Et moi, si à la fin de ma vie, je peux mourir avec Joli Môme dans les bras, je mourrai avec Joli Môme dans les bras.
Ouais. Est-ce que c'est pas un truc de vieux de sortir une revue papier ? Question à tous les deux.
je t'en prie.
Moi, je pense pas. Je pense vraiment pas parce que, déjà, c'est des beaux objets. Vraiment, c'est agréable d'avoir un journal dans la main. Et je trouve que c'est différent de lire un article en diagonale dans le métro ou à la pause café, une brève sur son téléphone, que de s'asseoir, déplier son journal, l'ouvrir et vraiment prendre le temps de le lire. Mmh. Ça induit une réflexion que je trouve plus grande et donc ça permet de mieux aborder les sujets et de prendre vraiment le temps de les réfléchir, de les penser.
Bah ça, est-ce que c'est pas un truc de vieux puisqu'on dit que les jeunes ouvrent leur téléphone et regardent des nouvelles de plus en plus rapides et regardent YouTube. Maintenant, c'était trop lent YouTube, maintenant ils sont sur TikTok. Je vous pose la même question, est-ce que c'est pas un truc de boomer que la presse écrite ? Je vous le reproche pas parce que moi j'adore la presse écrite.
Oui, bien sûr. Non mais moi je pense très sincèrement pour le coup que c'est un truc de boomer. Ouais. Mais après c'est pas grave. Enfin moi on m'a toujours dit que j'avais 65 ans à l'intérieur de moi et ça me va et je continuerai d'avoir 65 ans, mais je trouve ça tellement important, je suis hyper attachée au papier, abonnée à plusieurs revues et plusieurs magazines. Moi aussi, à mon tour, j'avais envie de lancer un magazine et de me dire, en fait, qu'à cela ne tienne, c'est parti, on tente.
Bon vent à Joli Môme, ça sort aujourd'hui. La patronne, c'est Jenna Boulmedaïs qui est avec nous et dispo dans trois librairies parisiennes dont vous avez donné les noms. Si vous n'avez pas noté, vous réécoutez le podcast de l'émission sur europe1.fr. Et merci Albéric Delagarde, vous êtes étudiant, chef de rubrique pour ce journal La Gazelle qu'on retrouve dans les facs parisiennes. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler du comeback d'une émission en aparté. C'est le nom de l'émission. Ça revient demain soir sur Canal+, c'était sur Canal+. Et cette fois-ci, c'est Nathalie Lévy et sa voix qui l'incarne. Elle sera avec nous dans un instant. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Nathalie Lévy.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, figure de BFM TV, vous avez longtemps présenté les tranches du soir, 21h, 22h, mais pas seulement. Vous avez également vu dans C'est à vous sur France 5 et aussi une année ici à Europe pour le 18-20. Vous avez quitté BFM il y a deux saisons et vous rebondissez sur Canal+, pas n'importe où, avec le retour de la mythique émission En Aparté. Ce sera du lundi au vendredi, un best-of le vendredi à 20h30 en clair sur Canal. Ça démarre demain jeudi. L'émission aura vécu de 2001 à 2007. Pour qui ne l'a jamais vu, pouvez-vous nous raconter le concept ?
Oui, en fait, tout se passe dans un appartement, pour le coup assez feutré, convivial, avec des espaces distincts, des corners, comme on dit, où en fait l'invité est convié et la voix du présentateur, du journaliste, le guide uniquement. Et là, pour le guider, pour jouer une sorte de passeur et l'emmener sur des territoires plus intimes, l'amener à la confidence, l'amener à se révéler. C'est vraiment une conversation. On travaille sur la promo, bien entendu, de l'artiste, de l'intellectuel, du sportif. Hein. Tout ça est très éclectique, évidemment, en termes de programmation. Et puis ensuite, il y a des diapositives qui lui sont montrées. On l'invite à nous raconter aussi ce que sont ses goûts culinaires, etc.
Excusez-moi, je souris parce que j'avais deux invités, des créateurs de journaux, ouais. Une jeune fille de 19 ans, un jeune homme de 22 ans, c'est quoi des diapositives ?
Pardon, ça c'est mon côté très désuet. Des diapos, bon allez, on va dire des images de sa vie, d'accord ? Ça vous va ou pas ?
Ça me va tout à fait.
Ouais, je crois que je suis restée dans les années 80, mais je l'assume hein, foncièrement. Voilà, donc on montre effectivement des images de sa vie, de sa carrière, voire de l'actualité, en tout cas de la vie de la cité ou de la vie de la société. Et voilà, on l'invite à réagir. Tout ça est fait dans la plus grande convivialité, je pense, avec du temps et avec une envie.
On va entendre la bande-annonce.
C'est une émission à part, un moment à part, un appartement, une personnalité face à la voix pour un échange intime et authentique. Vous y croiserez Clara Luciani, Nicolas Karabatic, Julie Delpy, soprano ou bien Josiane Balasco ou encore Laurent Lafitte. Pour la première, c'est Cadmérade, notre parrain qui s'y colle. Alors on se retrouve en aparté ? À partir de jeudi 20h30, du lundi au vendredi, en clair sur Canal+.
Attendez, vous en avez eu la primeur parce que c'est la première fois que je l'entends.
Bah ça me fait plaisir, c'est ça Culture Média. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, on a encore une petite surprise peut-être pour vous. On a donc vos premiers invités, comment sont-ils choisis, vous l'avez dit ? Il faut que des invités qui soient en promotion ou est-ce que ça peut être hors promo ?
Ah non, pas du tout, ça peut être complètement hors promo. Je vais vous en citer quelques-uns, ne serait-ce que Nicolas Karabatic. Voilà. Je pense que voilà la promo.
Le
handballeur, évidemment, champion en or aux Jeux Olympiques. Voilà, il est venu se confier, il s'est venu se livrer, on a conversé, c'était formidable parce que c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément comme ça, de manière aussi aisée. Et voilà, il nous a tout dit, tant sur le sport que sa vie personnelle, etc. Non, pas du tout la promo à tout prix. Et ça fait partie du jeu, vous n'allez pas me dire le contraire, mais on n'est pas du tout exclusif, c'est très éclectique tant sur le plan générationnel que sur le plan artistique.
C'est une émission d'accueil feel good ou parfois vous allez les chercher un peu, les titiller, vos invités ?
On a envie de les entendre se raconter.
Parce qu'à la base, vous êtes journaliste, je veux dire, le sens, puisque vous en parlez, je vous en parle, Nicolas Karabatic, handballeur, par exemple, en 2015, puis en appel en 2017, il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende pour escroquerie dans une affaire de Paris liée à un match truqué. Est-ce que vous allez lui en reparler ?
Franchement, on va arbitrer. Il y a deux écoles. Tout ça se discute. On est une belle rédaction avec une belle équipe de prod. C'est une vingtaine de personnes qui travaillent sur cette équipe.
Je pose peut-être une mauvaise question. Vous n'avez pas encore enregistré Nicolas Karabatic ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des choses qui sont dites et puis il y a des choses qui sont montées. On va pas se raconter d'histoire. Je suis pas en direct live comme sur BFM de 22h à minuit. Donc voilà. Le truc, c'est que il y a un arbitrage à faire. Il y a aussi une envie. On court pas après le buzz. C'est pas du tout cette émission-là. On est là dans un écrin. C'est un boudoir. L'idée, c'est que l'invité s'y sente bien et qu'on apporte autre chose que ce qui se passe sur les autres chaînes.
Je vais reposer ma question différemment parce que j'ai vu que vous l'aviez contourné. Est-ce que vous allez poser à vos invités des questions gênantes ?
Ça se présentera et puis parfois on évitera. Il y aura un arbitrage. Je peux pas vous dire que c'est pas manichéen. Ce sera pas c'est pas tout noir tout blanc. On verra comment ça se produit. On verra comment on le sent. On verra dans quelle disposition aussi est l'invité. Il vient pas pour ça. Donc on n'a pas envie non plus de créer cette espèce de crispation. Il vient pas pour ça. Il sait qu'il vient pour être flatté en quelque sorte, pour se raconter, et on a envie de garder cette unité-là, cette empreinte-là.
Des gens qui toutefois ont l'habitude de ne pas être flattés, même de prendre des coups, sont les politiques. Pour la dernière saison d'En Aparté, Pascal Clark, que je ne l'ai pas cité encore, qui animait l'émission, avait reçu tous les politiques, à l'exception de Nicolas Sarkozy, mais enfin c'est une année électorale. Est-ce que vous allez faire de même en cette année électorale ? Allez-vous recevoir des politiques dans En Aparté ?
À ce jour, non. Je vous dis très sincèrement non, parce que ils sont partout. Ils vont être en librairie. Ils sont partout sur tous les plateaux, divers et variés, des talk shows,
etc. Je peux faire un compliment sur l'émission, dont j'adorais le format.
Ouais.
L'émission était à part. Et dans En aparté, ils étaient partout, mais pas comme partout.
Absolument. Mais Karine Lemarchand a repris cette idée-là. Elle les a installés sur un canapé et on est un peu arrivé finalement au même format. C'est pas une priorité absolue. On va les voir partout. On les verra peut-être chez nous après, autrement.
Comment vous êtes retrouvés dans cette émission? Si je suis bien informé, c'est une histoire de SMS.
Alors oui, vous êtes bien informé, ça m'étonne pas de vous, je vous connais. Philippe, bah non, en fait voilà, je fais une année entre guillemets blanche, en tout cas je suis pas dans un média la saison dernière, mais parce que je le souhaite, parce que j'ai besoin de souffler, je suis sur d'autres projets. Et je lis dans Télérama, ni plus ni moins qu'au mois de mars, que l'émission En aparté est peut-être remise à l'antenne à la rentrée. Et là, je bondis et je me dis, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de cette opportunité. Donc, j'appelle mes camarades programmateurs, voilà, qui ont pu travailler avec moi sur l'info. Et je leur dis, vous avez un contact à Canal, donnez-moi un numéro. On me donne un numéro qui est le numéro de Franck Apieto, qui en l'occurrence n'est plus le bon numéro puisqu'il avait été donné à l'antenne. Et donc je me heurte à un silence profond.
Vous laissez des numéros à un type qui est pas du tout Franck Apieto, parce que c'est pas le bon numéro. Mais alors, comment ça arrive alors?
Et finalement, bah, je me dis, c'est pas possible. Il me répond pas. Je veux bien qu'il me réponde pas, mais quand même. Donc, je me dis, je vais insister, je vais le relancer. Et puis finalement, je passe par d'autres camarades, etc. Je redemande des numéros. On me redonne un numéro qui effectivement n'est pas le même. Et je retente. Et là, il répond. On échange, on parle d'ailleurs de choses assez personnelles. C'est assez troublant parce que on va assez vite dans un échange qui n'est pas attendu. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça, assez progressivement. J'ai rencontré un certain nombre de personnes à Canal+, tous les dirigeants. J'ai rencontré les producteurs de l'émission longuement. Voilà, j'ai passé toutes les étapes une par une. Voilà, sans avoir le moindre contact au préalable avec les gens de Canal.
Et vous savez ce qui les a séduits? Moi, je le sais, et on va l'entendre. Nathalie Lévy avec nous, elle reprend En aparté. Ça démarre demain, et on reprend dans quelques instants sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la journaliste Nathalie Lévy, qu'on avait beaucoup vue sur BFM TV, et maintenant elle reprend une émission culte de Canal+. Le mot n'est pas trop fort. En aparté, ça démarre demain à 20h30. Ce sera des émissions de 26 minutes, et il y en aura 4-5 par semaine.
Absolument.
4 fraîches et le best-of le vendredi. Vous nous racontiez comment vous espériez être choisi quand vous avez appris que Canal+ lançait cette émission. Vous avez fini par rencontrer tous les dirigeants de Canal+. Il y avait Laurence Ferrari aussi qui était dans la boucle. Vous l'avez coiffé au poteau. Vous l'avez appelée Laurence ou pas?
Non, mais je sais pas si vraiment elle était dans la shortlist. Vous le savez, vous?
Je
suis moins informée que vous. J'ai pas enquêté.
Mais
j'avoue.
Je sais pas trop. Moi non plus, j'ai pas enquêté et c'est pas notre sujet. En revanche, ce qui est vraiment passionnant, c'est la manière dont vous les avez bluffés. Vous savez comment vous les avez bluffés ou pas?
Non.
Notamment les producteurs, vous avez déjeuné avec eux.
Oui, ça c'est vrai.
Et ils ont été totalement subjugués par votre voix. Et je voulais savoir comment c'était ces déjeuners. Il paraît que quand quelque chose est important, vous ralentissez le débit, votre voix se fait plus grave.
Ah bon? Alors là, mais vous savez vraiment tout. Hein.
Ben, je sais des choses. Et alors, je vous disais qu'on a un petit cadeau, une petite surprise. La première émission n'est même pas finie de mixer, mais on a un petit cadeau. Je pense que vous-même, vous ne l'avez pas entendu. Ce sont les tout premiers instants avec votre tout premier invité.
Hop là.
Bonjour camarade.
Oh mon Dieu. Bonjour. Ah, bonjour. Tiens, dis donc, c'est joli.
Ah, ça c'est une bonne chose. Première bonne nouvelle. Ah, bienvenue dans En aparté.
C'est conscient ou inconscient, cette manière de baisser le ton, de ralentir le débit quand c'est important?
Je pense que c'est clairement inconscient. Je pense qu'il y a plusieurs choses. J'ai toujours pensé que la voix était l'expression du vrai. Donc je pense que peut-être qu'à mon âge et à cette place, je suis dans le vrai, véritablement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens hyper bien dans cet exercice. J'en ai rêvé.
Vous dites ce qui m'a intéressé, vous dites que votre voix, pendant très longtemps, a été votre pire ennemi.
Oui, exactement. C'est pour ça que je vous dis que je suis peut-être à ma place aujourd'hui. Ouais. Oui, ado, etc. J'avais envie d'avoir une voix plus guillette, plus jeune, plus féminine, etc. Et elle m'accordait un certain crédit, cette voix, dans l'info. C'était pas mal, mais ça me déplaisait quand même. Je trouvais pas ça très glamour. Aujourd'hui, bah voilà, c'est mon outil de travail, véritablement. J'ai pas cherché, je l'ai pas travaillé, jamais, je vous le jure.
C'est ma question,
Absolument. Non, non. J'ai jamais travaillé ma voix. De toute façon, j'ai fait l'Institut français de presse à Assas. place. Autant vous dire que il y avait pas matière à travailler sa voix.
Non, mais ensuite il y a plein d'animateurs qui sont allés voir des coachs vocaux pour passer à l'antenne. Je vais pas les citer ici, mais il y en a beaucoup.
Non, jamais. Je pense que voilà, mon timbre est suffisamment grave pour pas avoir à le travailler davantage. Ouais. Sinon, on peut vite basculer du mauvais côté de la force. On m'a déjà appelé monsieur au téléphone. Hein, je vais pas vous le cacher. Ça me fait rire. Hein. Aujourd'hui, ça me fait rire. Donc voilà, c'est mon outil de travail. J'en fais pas une fierté ni une gloire. C'est comme ça. Et bah tant mieux si aujourd'hui ça permet de répondre à cette émission.
Alors, je reviens à l'émission au dispositif. C'est donc un invité dans un décor d'appartement, d'où le titre en aparté. Vous vous êtes installé où? Dans une cabine? Vous le voyez pas? Est-ce que vous le voyez avant ou pas du tout?
Non, c'est voulu. D'abord, et d'ailleurs, vous venez de le dire et de citer Philippe Gildas, on fait pas l'émission avant l'émission, et je suis entièrement d'accord avec ça. Je souscris évidemment depuis toujours. Donc, surtout pas les rencontrer avant, parce que ça déflore quelque chose. Après, bien entendu, mais je suis dans ma petite cabine, aux abris. c'est très tamisé, à quelques mètres du plateau, et je le vis très bien. J'aime ce silence, j'aime ce cocon dans lequel je me trouve moi aussi, et j'avance comme ça en ayant les images de son déplacement, de son attitude, de son visage. Et voilà.
Vous tournez beaucoup pour une émission de 26 minutes utile ?
Non, on tourne pas énormément. Là, pour tout vous dire, on en est quand même qu'au prologue, qu'au préambule. Hein. Ouais. C'est vraiment les balbutiements. Donc, on a fait à peu près 40 minutes pour 28, ce qui est pas dingue. Je voudrais absolument faire un peu moins pour que ce soit équilibré pour tout le monde, pour toutes les équipes, mais sans se limiter et sans se dire qu'il n'y a pas de pression de ce côté-là, de toute façon.
Qu'est-ce que vous avez gardé de l'ancienne version de l'émission et qu'est-ce que vous avez modifié ?
Cette émission, elle est emblématique, vous l'avez dit, il n'y avait pas besoin d'enlever, de rajouter a priori, il y a eu des petits ajustements liés simplement à la mode.
Ouais.
Parce qu'on est 15 ans après.
Vous avez supprimé les diapositives, par exemple.
ça va rester. On est 15 ans après, donc on a revu un petit peu la déco. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est à la marge, c'est à la marge.
Vous avez appelé Pascal Clark pour lui demander des conseils.
C'est marrant, cette question. C'est vraiment une question de journaliste.
Quasiment tout le temps, quand une personne reprend une émission, il appelle le prédécesseur.
Est-ce que vous, Philippe, vous avez appelé tous vos prédécesseurs à chaque fois que vous avez repris une émission?
Non, parce que j'étais le premier sur le journal du Hard, mais sinon, oui, toujours. Je demandais conseils, comment ça se passait, comment c'était. Je veux dire, pourquoi j'en parle? Parce qu'à la fin de l'été, Pascal Clark était un peu amer. Non, pas vous, mais que les producteurs ne l'aient pas prévenu.
D'où cette injonction des médias à dire, est-ce que vous avez appelé Pascal Clark? Du coup, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est purement privé et le contenu de l'échange est hyper privé aussi.
À la rentrée 2020, vous aviez sorti un premier livre, ça s'appelait « Courage au cœur et sac à dos » aux éditions du Rocher. Et livre qui parlait des aidants familiaux, notamment votre rôle auprès de votre grand-mère. Il y a une adaptation en préparation pour France Télévisions.
Alors, pour France Télévisions, non. En tout cas, évidemment, ça fait partie des chaînes qui, j'espère, seront intéressées par ce sujet.
Parce que j'ai vu passer aussi le nom de Christophe de Chavannes et je ne savais pas si c'était une fiction ou un documentaire.
Non, fiction. On est sur une fiction. On travaille avec Stéphane Guérin-Tillier, qui est comédien, scénariste, qui est quelqu'un que j'affectionne particulièrement et qui avait signé Eddie, un film avec François Berléand et qui est surtout, évidemment, très connu comme comédien. Qui travaille sur l'adaptation avec une sorte de substantifique moelle qui est très liée à mon histoire personnelle. Et puis, on se dégage, bien sûr, quand même de mon personnage pour amener tous les éléments de la fiction, les rebonds, etc.
Vous avez déjà choisi la comédienne qui va jouer Nathalie Lévy ou ce sera vous?
Je pense que je passerai le casting.
Wow. Un mot d'actualité, il existe entre 8 et 10 millions d'aidants en France qui soutiennent un proche, âgé, malade ou handicapé. À partir d'aujourd'hui, tous les gens qui exercent cette profession, quand c'est une profession, doivent avoir reçu au moins une première dose de vaccin. On estime qu'il y a entre 10 et 15% de réfractaires. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Écoutez, ça m'inspire beaucoup d'inquiétude. Je pense que quand on travaille à côté du grand âge, ces personnes qui sont vulnérables à 200%, on peut pas passer à côté de cette vaccination. Nous, on vit masqué au quotidien avec ma grand-mère de 99 ans et demi. Les auxiliaires de vie qui sont à nos côtés sont vaccinés et masqués à longueur de journée. On parle même pas d'humanité. C'est essentiel, c'est incontournable. Pour moi, c'est non discutable. En fait, c'est un non-sujet.
Merci Nathalie Lévy. Je rappelle le retour de l'émission mythique En aparté sur Canal+. Ça démarre demain, c'est à 20h30 sur Canal. Ça commence donc demain Kade Merad, puis Laurent Lafitte. Et la semaine d'après, Julie Delpy, Josiane Balasco, Soprano et Nicolas Karabatic.
Et puis tant d'autres, Guillaume Canet va venir nous voir également. Enfin, autant vous dire que la liste est très très glamour.
N'en jetez plus, ça sent la soirée diapo. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Bruno Donnet pour ses télescopages. Chronique qui scrute les médias de très très près. Notre invité, tiens, c'est Laurent Lafitte pour son film oui. L'Origine du Monde. Vous l'avez vu le film ?
Oui, absolument.
Extraordinaire film. Et dans Les Indispensables, un nouveau roman avec Nicolas Carreau. Et puis Clément Le Saffre qui nous parle d'un jeu vidéo aux allures d'un jour sans fin. Et Marc-Antoine Lebray, humoriste imitateur, en fin d'émission. A tout de suite.
Merci Philippe.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.